France Culture.
Bonjour le Book Club. La poésie d'Audrey Lorde, c'est assez émouvant parce que c'est à la fois cru et poétique. Ça nous parle aussi bien de la vie tous les jours, des émotions qu'on peut sentir, que des choses qui sont plus en lien avec l'histoire, avec les droits. C'est vraiment son côté poétesse qui revendique, qui dénonce, qui m'a parlé particulièrement dans ce recueil.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
Née en 1934 dans une famille d'immigrés caribéennes, Audrey Lorde grandit à Harlem aux États-Unis. Elle se présentait ainsi, noire, lesbienne, mère, guerrière, poétesse. Pendant les 5 ans qui précèdent sa mort en 1992 et alors qu'elle se sait atteinte d'un cancer du sein, elle écrit, voyage, se soigne, transmet, aime. Aujourd'hui, paraît dans la traduction française un recueil posthume composé dans ces années-là. Audrey Lorde sait que c'est son dernier livre. La merveilleuse arithmétique de la distance, c'est son titre, rassemble des poèmes plutôt courts et quasiment tous datés, qui, s'ils témoignent de son corps fatigué, charrient une lumière intense. Mélissa Lavaux, qui signe l'une des préfaces, et Sandrine Motin, connaisseuse de son œuvre, sont nos invités pour en parler. Ensuite, et comme chaque semaine, on retrouve la journaliste Nicole Vulzer. Elle éclaire pour nous des aspects économiques du monde des livres. Aujourd'hui, elle nous parle de la Maison des écrivains et de la littérature menacée de fermeture, alors qu'on lance l'opération nationale cet été joli. Nicole déplie pour nous ce paradoxe. On cherchera la musique en fin d'émission. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Et bonjour, bonjour, bonjour Mélissa Lavaux.
Bonjour.
Vous êtes musicienne, vous signez une préface très personnelle et très belle au recueil posthume d'Audrey Lorde. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cette œuvre et ce recueil.
Merci de l'invitation, c'est un honneur.
Ce recueil s'appelle The Marvelous Arithmetic of Distance. Il est apparu dans une version bilingue, je le disais, le fruit d'un travail collectif de traduction signé Providence Garçon et Noémie Grunenwald pour les éditions Gallimard. C'est un hors-série de la grande collection L'Imaginaire chez Gallimard. Bonjour Sandrine Montin.
Bonjour Marie Richeux, bonjour Mélissa Lavaux.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Nice, si je ne me trompe pas. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Côte d'Azur. Vous avez traduit Charbon, un autre recueil d'Audrey Lorde pour les éditions de l'Arche. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer ce recueil, Une merveilleuse arithmétique de la distance. Si vous voulez bien, Sandrine Montin, est-ce qu'on peut placer, j'ai dit comment elle se présentait de manière générale, comme ça, noire, lesbienne, mère, guerrière, poétesse. Si on met un tout petit peu plus de détails dans ces grandes lignes biographiques, il faudrait dire quoi pour les personnes qui découvrent complètement le nom d'Audrey Lorde?
Si vous permettez, je dirais juste un mot pour dire qu'avec moi, il y avait 6 autres traducteurs et traductrices, et puis on a traduit
pour Charbon. En
fait, 3 livres. Donc il y avait Charbon, il y avait aussi l'anthologie Contre-champ parue chez les jeunes éditions Les Prouesses, et puis tout récemment, un poème toujours chez Les Prouesses qui s'intitule « Besoin urgent, chorale pour voix de femmes noires ». Mais à chaque fois, c'est un collectif de personnes. Voilà, je clôt la parenthèse.
Vous avez
parenthèse.
Bien fait, comme ça on
Merci
est précis.
Beaucoup.
On est précis, on mettra même l'entièreté de la bibliographie récente sur la page du Book Club. Je voulais pas tout dire, c'était pour ne pas alourdir notre bonjour, mais c'est super, comme ça on est tout précis.
Merci beaucoup. Alors, pour revenir à Audrey Lorde, oui, ben, je dirais par rapport à ce que vous avez présenté en introduction, qu'en effet, elle a grandi dans une famille caribéenne à Harlem et en tant qu'enfant noir, elle a été très, très vite consciente des discriminations racistes qu'elle subissait et s'est étonnée assez rapidement du silence de ses parents qui réagissaient avec, disons, une dignité muette à ces discriminations et à ces violences. Et ça l'a mise assez tôt en colère, ce qui fait qu'elle a quitté assez jeune le domicile familial pour ensuite poursuivre des études à Columbia University, devenir bibliothécaire. Pendant ce temps-là, elle faisait des petits boulots alimentaires. Et elle est devenue bibliothécaire dans différentes bibliothèques à New York notamment, où elle a développé des fonds de littérature noire, notamment les fonds de littérature jeunesse. Et puis voilà, elle a eu 2 enfants, Elizabeth et Jonathan, qu'elle a élevés d'abord seule, puis avec sa compagne Frances. Et après la publication de son premier recueil, The First Cities, elle est devenue poétesse en résidence à Tougaloo College, qui est une université qui accueille spécifiquement des étudiantes et des étudiants noirs dans le Mississippi. Et là, elle a compris que c'était vraiment sa vocation, plus encore que bibliothécaire, qui était déjà un métier qui lui plaisait beaucoup, l'écriture et l'enseignement universitaire, notamment des études noires.
Et ça, ce sera vraiment une sorte de triptyque de sa vie ensuite à Audre Lorde. Mais à quel moment intervient l'écriture, l'espèce de passion poétique qui va ensuite animer toute son existence dans son parcours?
Très jeune, dès le lycée, elle écrit et publie ses premiers poèmes. Donc elle est dans un lycée assez prestigieux qui s'appelle Hunter College High School. C'est son père, elle le dit d'ailleurs dans le recueil qui nous occupe aujourd'hui, Une merveilleuse arithmétique de la distance. C'est son père qui a tenu à l'inscrire. C'est vraiment une institution pour enfants doués. Et c'est là qu'elle développe cette passion pour l'écriture. Et puis, voilà, donc il y a ce premier recueil des First Cities, suivent de très nombreux autres recueils, jusqu'à ce dernier qui nous occupe, qu'elle a écrit entre 87 et 92.
On va parler spécifiquement parce qu'il est aussi posthume. 92, c'est l'année de sa mort. 87, oui. 92, c'est aussi un temps où elle se sait atteinte du cancer. Qu'est-ce qu'on peut dire, Sandrine Montin, de la réception de sa poésie de son vivant?
Alors, elle circule d'abord plutôt dans les milieux lesbiens, queer, et puis dans l'édition noire, peut-être avec un peu plus de difficultés au tout départ. Elle a un conflit d'ailleurs avec l'un de ses éditeurs. Et vraiment, elle devient une icône sur la fin de sa vie. Je dirais que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup fédéré a vraiment beaucoup cultivé la solidarité avec les femmes noires racisées en particulier. Elle disait à l'époque, les femmes de couleur et femmes du tiers monde, ce sont les expressions qu'on trouve sous sa plume, sous celle de ses amies, Beverly Smith, Barbara Smith, Gloria Anzaldúa. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très très incluse dans de nombreux réseaux, donc ça lui permet de travailler, de soutenir les autres et puis d'être lu aussi.
Il y a un film qui s'appelle Les années Berlin, qui est signé Dagmar Schultz, dont on entendra tout à l'heure quelques extraits. Il se trouve que la ville de Berlin apparaît aussi dans ce recueil de poésie posthume. Elle se rend fréquemment dans cette ville entre 84 et 92. Pourquoi?
Alors, elle s'y rend parce qu'elle est invitée par Dagmar Schultz à enseigner à la Freie Universität, donc l'université libre de Berlin, où elle a vraiment à cœur, et c'est l'action qu'elle accomplit là-bas, de soutenir l'émergence d'une communauté de jeunes femmes noires, qu'elles soient poètes ou pas d'ailleurs, mais de les soutenir dans une trajectoire d'auto-affirmation, d'autodéfinition de soi. Donc elle réunit tout un groupe de personnes autour d'elle et on le voit très bien dans le film de Dagmar Schultz. Et elle va circuler entre Berlin et la Suisse où elle se fait soigner aussi pendant ces dernières années. Et vraiment
Non, allez-y.
Non, vraiment cette façon qu'a Audre Lorde de tout le temps soutenir les femmes et notamment les femmes noires ou racisées, ça se voit dans le film, mais c'est vraiment un trait récurrent de l'ensemble de sa vie.
Peut-être que c'est quelque chose que l'on peut relier avec le choix que font les éditions Gallimard et la collection L'Imaginaire de confier non pas à une préfacière mais à quatre préfacières l'idée comme ça que cette poésie et cette voix d'Audre Lorde rassemblent autour d'elle d'autres voix, d'autres pensées, celles-ci contemporaines, je les cite, Alice Diop, Fatou S, Kiemis et Mélissa Lavo. Vous signez, Mélissa Lavo, la dernière préface avant qu'on entre dans le recueil d'Audre Lorde sous la forme d'une missive. 25 octobre 2024, vous parlez directement à Audre Lorde et vous lui dites « Je vais avoir 40 ans et je suis en deuil ». De quel deuil parle cette lettre-là, Mélissa Lavo?
Je suis en deuil de la vie que je pensais que j'allais avoir avant de savoir que j'étais atteinte d'une sclérose en plaques. Et je suis aussi en deuil au moment où je récupère cette œuvre, parce que je l'avais jamais vue en fait. Moi, j'avais découvert Audre Lorde avec Zami quand j'étais à la fac, ma première année de fac, et j'étais bénévole et ensuite directrice du centre de ressources des femmes de l'Université d'Ottawa. Et du coup, j'avais accès à tous ces livres.
Zami, qui est un recueil qui est, en tout cas pour la parution française, qui date de 2001, mais vous le découvrez avant.
Oui, parce qu'il était disponible en anglais et je suis bilingue. Et Zami, c'est une œuvre autobiographique, c'est une fiction autobiographique. Et je pense que grâce à cette œuvre-là, Saïdia Hartman, elle a créé ce terme de fabulation. Comment décrire le passé de manière documentaire, mais en écrivant une fiction, en écrivant une prose. Et du coup, elle parle de son passé, mais de manière un peu fabulée, qui est hyper belle et qui m'a beaucoup touchée.
Donc, vous êtes jeune femme, vous avez 18-19 ans.
Oui, j'ai 17 ans.
17
quand,
ans.
Quand j'ai découvert sa première œuvre. Et du coup, 23 ans plus tard, qu'on m'offre une préface. Et c'est un livre que je connaissais les Cancer Journals, mais je ne connaissais pas celui-ci.
Et parce qu'elle tient aussi vraiment un journal du cancer où elle décrit l'avancée de la maladie, sa relation avec cette maladie, la manière dont elle va se situer dans la traversée de cette maladie. En effet, ce recueil-là, il est dans ces mêmes années, mais il n'est pas spécifiquement consacré que à sa traversée de la maladie, même si évidemment son corps et comment elle se sent, ça apparaît.
Ça apparaît définitivement, comme c'est vraiment, c'est ressenti, mais ce n'est pas le propos principal, ce qui est très beau. Et je pense que c'est aussi, ça atteste un peu de son objectif en réalité. Ce n'est pas nécessairement, je vais écrire des poèmes sur le cancer, mais je vais écrire des poèmes avec l'œil que j'ai maintenant que je suis atteinte du cancer. Et ça, je trouve beaucoup plus intéressant. Et du coup, le second deuil que j'ai fait, c'est sachant, ça c'est la dernière œuvre qu'on a eue d'elle, en fait. C'était la fin. Mmh. Et du coup, comme un peu toutes les œuvres, quand j'aime beaucoup un livre ou quand j'aime beaucoup un film, je l'éteins avant la fin parce que j'ai pas envie de savoir la fin. Et ça fait plusieurs mois que je suis en train de lire une biographie d'elle écrite par Alexis Pauline Gums qui est Survival is a Promise. Et qui est une biographie, mais écrite de manière poétique de sa vie. Et je n'ai pas envie de la finir. j'ai lu 75% et j'ai arrêté. Parce que je trouvais ça trop pénible de me dire que j'arrivais à la fin de sa vie, encore une fois.
En tout cas, ce qui plutôt apparaît notamment dans les préfaces d'Alice Diop ou de Kiyemi, c'est-à-dire d'avoir attendu cette voix-là, que cette voix-là leur ait manqué, qu'à partir du moment où c'est arrivé dans leur vie, il y a eu quelque chose d'aidant, de révélateur, mais aussi de puissant, d'un élan créateur. Vous, de pouvoir avoir eu accès à cette langue-là dès votre jeune âge, parce que vous pouviez lire l'anglais, parce que c'était publié là où vous viviez. C'était pas quelque chose de cet ordre-là que vous avez vécu, Mélissa Lavoie, avec Audrey Delorme.
Pour moi, c'est juste confirmation. pour certaines, c'est peut-être que c'est continuation d'une révélation, mais pour moi, c'est la confirmation qu'on est auprès d'une grande prêtresse de la poésie, mais surtout que pour moi, c'est une consoeur, c'est une grande sœur. C'est quelqu'un qui était la preuve que j'existais, en fait, dans un monde...
Est-ce que vous pouvez déplier cette idée-là?
Oui, dans un monde où on grandit, et en fait, rien n'est fait pour nous. Les petites filles noires au Canada, en tout cas, moi, je suis née en 85, et il n'y avait pas vraiment de petites filles noires à la télévision, il n'y avait pas vraiment de petites filles noires dans les poèmes. Donc, je me souviens très, très fortement du premier livre que ma sœur m'a offert, et c'était des contes Disney, mais il n'y avait pas encore Tiana. Et je me suis souvenue de la première fois que ma sœur m'a offert... Toni Morrison, The Bluest Eye. Et c'était la première fois que je voyais une... Et à chaque fois, c'est première fois qu'on se voit et qu'on voit notre communauté et qu'on voit les choses auxquelles on fait face. C'est comme si on était appelé à arrêter de dissocier. Parce que, en fait, c'est tellement facile de dissocier quand on est dans un monde où rien n'est fait pour nous, mais aussi rien n'est fait pour nous parler. Et en fait, c'est tellement difficile à l'expliquer à des personnes qui... En fait, tout a été fait.
Bien sûr. Tout a été fait. Justement, est-ce que vous pouvez encore déplier cette idée de ça nous permet d'arrêter de dissocier? Qu'est-ce que vous entendez sous ce terme-là, Mélissa Lavoie, de dissocier?
Ah, ben, je trouve que depuis que je suis toute petite, vu que je n'ai rien, je n'ai pas de miroir pour attester de ma présence, de mon existence, ben pourquoi est-ce que je dois être là? Moi, je peux dissocier avec les livres, avec la télévision, avec les films. Moi, je suis partie. Je passé une demi-année, parce que j'étais aussi enfant précoce, et j'ai passé une moitié d'année à avoir besoin de lunettes, mais j'avais même pas besoin. et j'arrivais à suivre le cours jusqu'à un certain montant parce que j'avais autre chose à faire. J'avais des livres, j'avais des bouquins. Moi, je me réveillais à 2 heures du matin pour lire des bouquins. J'étais obsédée par les mots et le fait que les mots nous permettaient de voyager et que le monde présent était tellement pénible. Mais les livres, en fait, c'était... je me rendais compte que tout ce qui était immatériel était une manière de m'apaiser, un baume vraiment. Et je pense que je suis pas la seule. Je pense que on passe énormément de temps à dissocier vu qu'il y a, on est constamment en train d'encaisser des violences, que ce soit des violences sociétales, des violences dans la famille, des violences parce que on se rend compte, des violences envers soi-même, mais des violences parce qu'on se rend compte qu'on est lesbienne, genre, dans ce, pour pas ne faire de parallèle, mais avec le livre de Alexis Pauline Cubs, j'ai découvert
donc cette biographie.
Cette biographie, la plus récente qui est sortie sur Audrey Lorde, c'est le moment où elle se rend compte qu'elle est lesbienne, ou les premiers poèmes sur sa meilleure amie quand elle est au lycée, sa première amie qui se suicide. Et
ça s'appelle Jenny.
Oui, Jenny. Et il y a, en fait, le thème récurrent de la mort d'Audrey Lorde qui est confrontée à la mort, et en même temps que ce n'est pas si fou que ça, parce que Audrey Lorde aussi en tant qu'antillaise, moi je trouve qu'en tant que personne antillaise, on est confronté à la mort tout le temps. En fait, moi on m'a parlé de mort dès que j'étais petite. La mort ne m'a jamais flippée plus que ça. Je travaille sur un album sur la mort, et je pense que j'ai toujours eu un accès privilégié à son travail parce que je me rendais compte que j'étais face à quelqu'un qui avait vécu ce que j'avais vécu et qui comprenait ce que moi j'avais compris du monde et qui avait
bien que né 50 ans avant vous, quoi.
Né 50 ans, ouais. Avant. Mmh. Et bon, aujourd'hui, on a beaucoup plus de visibilité, on a beaucoup plus de plateformes, de plateaux, de capacité de parler de ces choses. Et du coup, je sais que je suis encore moins seule. Après ça, j'adore dissocier. Mais... c'est pas nécessaire. Maintenant, on peut être en conversation avec nos solitudes.
Mmh. Chose que dit, qui rejoint, je trouve, ce que vous dites là, Mélissa Lavaux, dans un poème qui commence, la phrase qui commence le poème est écho, en tout cas dans la traduction française, elle dit « Il existe un timbre de voix qui vient du fait de ne pas être entendu, .e.s, et il y a quelque chose de ce timbre de voix qu'elle déplie et qu'il vient en effet de ce silence, dont elle dit aussi qu'il ne protège pas les silences. » On va entendre la voix d'Audrey Lorde dans ce fameux documentaire de Dagmar Schultz nous parler des mots choisis, notamment peut-être pour éclairer cet incroyable titre « Une merveilleuse arithmétique de la distance ».
The first choice was the miraculous. That was my first choice.
Le premier choix était merveilleux. C'était merveilleux, magique. La qualité que je recherche, c'est le magique. Passons à présent à l'arithmétique, par opposition aux mathématiques. Les mathématiques impliquent toutes les manières les plus élevées et symboliques d'interagir avec les nombres. L'arithmétique, ce sont les fonctions de base, les manières fondamentales de combiner les nombres, additionner, soustraire, multiplier et diviser. Les mathématiques vont jusqu'aux équations algébriques, qui englobent le reste des choses dont je veux parler. Les façons fondamentales dont la distance modifie la perception, c'est de cela dont je parle. Les manières dont la distance modifie ta façon de voir, c'est exactement ce dont je parle. Ce n'est pas que tu changes intérieurement ce que tu sais être vrai. C'est que tu perçois un déplacement, un glissement dans les différences. Et c'est pour cela que les merveilles magiques, l'arithmétique, ces façons d'aborder ce qui est, ont leur importance. Car l'arithmétique traite essentiellement de ce qui est. Les mathématiques s'occupent fréquemment de relations théoriques, tandis que l'arithmétique s'occupe d'une sorte de réalité pragmatique.
La voix d'Audre Lorde, qui est extraite de ce documentaire signé Dagmar Schultz, Berlin Years, Sandrine Motin. En effet, il y a plein de choses à dire dès le titre de ce recueil posthume, Une merveilleuse arithmétique de la distance. Elle nous dit là le choix particulier à la fois du mot merveilleux, à la fois du mot arithmétique. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Sandrine Motin, pour continuer de nous aider à comprendre le choix de ce titre?
Bien, effectivement,
c'est tout singulier quand même. C'est
oui,
pas n'importe.
C'est un titre hyper étrange qui peut laisser perplexe parce qu'il articule des termes en tension, le froid et le chaud, l'arithmétique et la merveille.
Et la distance.
Et en plus de ça, la distance. Donc, alors Audre Lorde, là dans l'extrait que vous avez donné, explique quelques pistes. D'abord, ça va être très concret. L'arithmétique est très concret. Ça prend en compte ce qui est, dit-elle, contrairement aux mathématiques qui, elles, seraient plus théoriques et abstraites. Donc, le recueil va être très concret et il est évident que il est les pieds dans le réel. Il donne à entendre la vie dans sa quotidienneté la plus ordinaire.
Il y a de la cuisine, par exemple, il y a des trucs à faire, il y a des objets. Et d'ailleurs, souvent, moi, ce que j'ai remarqué vraiment dans une analyse très beaucoup trop rapide, mais souvent, il y a quelque chose comme ça en deux temps, j'ai trouvé dans les poèmes, qui ne sont pas très longs, mais qui offrent comme ça presque deux temporalités. Dans un premier temps, il y a souvent des trucs très concrets, des dates, des lieux, des prénoms, des situations, des choses qui se passent. Et dans un second temps, presque une reprise de ce qu'on vient de lire, mais avec une forme de langue plus poétique, éventuellement des visées plus lyriques, comme si vraiment de la vie, les pieds dans la terre, pouvait naître la poésie.
C'est exactement ça, et donc ce terme qu'elle a choisi, cet adjectif « marvelous », il se trouve aussi dans le premier poème du recueil, et il est comme dédoublé à la fin du deuxième poème du recueil par un mot qu'elle rapporte de sa mère, Linda, qui serait le dernier mot qu'elle lui a entendu prononcer, le mot « wonderful ». Et en fait, les deux mots sont absolument équivalents, enfin, le premier est emprunté à l'ancien français, marvelous, oui, qui vient de merveilleux, tout simplement, et wonderful vient du germanique, mais les deux ont des significations quasiment similaires, équivalentes. Et en fait, ils décrivent toute une gamme de choses, parce que le merveilleux, ici, c'est à la fois ce qui est digne d'admiration, ce qui est magnifique, mais aussi ce qui pose question, ce qui engage des interrogations sur la vie, sur la mort, sur la compréhension du chemin parcouru par les autres, le père, la mère, les sœurs qu'on découvre à la fin de sa vie, parce qu'elle en parle dans le poème consacré à son père, elle découvre à la fin de sa vie qu'elle a non pas deux sœurs, les deux aînées nées de son père et de sa mère, mais quatre, puisqu'il y a deux sœurs qui sont des demi-sœurs que son père a eues d'abord et dont elle découvre l'existence. Donc il y a une sorte d'addition là, mais c'est une addition assez incroyable, assez merveilleuse dans le sens où elle est stupéfiante. Elle,
oui,
elle
il y a quelque
question.
Chose aussi du merveilleux qui étonne, qui stupéfait. Qui,
voilà,
elle parle aussi d'un grand pont des questions sur lesquelles on
Exactement.
Pourrait se tenir pour interroger la vie, chose qu'elle fait beaucoup et peut-être avec une nouvelle distance. Et là, je reprends ce que disait Mélissa Lavo, il n'est pas tant question de parler de ces années où le cancer progresse en elle, mais bien de parler du regard nouveau qu'elle peut poser sur sa propre existence, l'existence de ses parents, de sa famille, de sa communauté, de ses amis. Regard transformé et peut-être plus distancié par la maladie. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait entendre le mot distance, Mélissa Lavo,
oui,
dans ce titre?
Oui, je pense que distance, c'est parfait. Pour dire qu'il y a un recul qui, tout d'un coup, qui se met, parce que, en fait, on a une différente perspective, tout change, tout a une différente place, tout d'un coup, en fait.
C'est une réorganisation du réel.
Ouais, exactement.
Est-ce qu'on peut dire ça, Sandrine Montin, ce dernier mot du titre, donc une merveilleuse arithmétique de la distance, le mot distance, il est à entendre comme ça?
Alors, comme un renouvellement des rapports, oui, absolument. Est-ce que c'est un rapport qui est plus distancié?
Oui.
Je ne sais pas si je dirais ça, parce que je pense qu'il est toujours aussi charnel, enflammé parfois, embrasé. Mais en revanche, ce que je perçois dans le recueil, c'est que, comme elle le dit à la fin du premier poème d'ailleurs, l'odeur du vent, ce n'est plus l'heure de régler des comptes. Mmh. C'est-à-dire que là, ce qui pouvait y avoir de colère, de reproche, par exemple à la mère et au père, c'est plus le moment. Là, il s'agit du temps de la compréhension. Bien sûr, merveilleux inclut aussi des sens comme terrible. Hein, on parle de marvelous pain, wonderful torments. Donc, il y a aussi ce caractère terrible dans la merveille. Mais et il s'agit pas de les nier. Il s'agit pas de nier ce qu'elle appelle collusion, par exemple, quand elle parle de sa mère. Mais ou la violence du père, dont elle parle aussi, qui l'a menacé avec un pistolet, etc., etc. Donc, on ne nie pas. En revanche, c'est plus l'heure de régler des comptes, mais d'essayer de comprendre et de compter au sens à la fois de relater et au sens de
compter,
dénombrer,
ouais, de dénombrer.
Ouais. En français, compter au sens de raconter, ça vient de compter au sens de dénombrer. Et il y a ce sens-là aussi en anglais dans count. On peut dire count me your news, raconte-moi tes nouvelles. Enfin, c'est un vieux sens. Hein. C'est plus tellement utilisé aujourd'hui. Et donc, oui, il s'agit désormais de compter, raconter, faire le compte,
mais pas régler ses comptes.
Mais pas régler ses comptes de la vie, de la mort, de ce qui effraie, de ce qui émerveille, tout à la fois. Mais alors, c'est plus le moment de régler ses comptes.
Vous dites aussi, Sandrine Montin, qu'il ne faut pas que entendre le mot distance comme quelque chose qui nous éloignerait de l'expérience, notamment sensorielle, de l'existence. Il y a une pensée, on va manquer de temps pour la déployer suffisamment, mais il y a une pensée érotique de l'existence chez Audre Lorde, dont vous parlez pour aussi comprendre que elle est toujours collée sensoriellement à la traversée de l'existence.
Absolument. En quelques mots, je dirais que effectivement, les émotions, comme le dit Lorde dans ses essais, sont des terres fertiles, sont des sources de connaissances. En fait, les émotions, et en particulier ces trois grandes émotions que sont la joie, la peur et la couleur, nous donnent des informations sur nos besoins, nourris si l'émotion est agréable, non nourris si l'émotion n'est pas agréable. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des choix souverains, responsables, et non pas des choix qui obéissent à des injonctions extérieures, à des demandes sociétales. Donc désormais, on peut faire des choix en connaissance de cause, grâce à la connaissance qu'apportent les émotions, et poser des actes d'autodéfinition, d'auto-affirmation, des actes qui ont, dit-elle, une portée durable.
Oui, parce qu'elles sont comme, ces actes-là sont comme enseignés ou renseignés par l'expérience charnelle, sensorielle, érotique de l'existence, et c'est ça qui fait la responsabilité. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression que de ce champ-là émotionnel ne viendrait que quelque chose d'irrationnel. Or, elle dit non, c'est précisément dans le champ érotique, dans le champ sensoriel, qu'on peut fonder sa responsabilité. Mélissa Lavaux, vous dites dans une deuxième partie de la lettre que vous lui adressez, qui tient de préface au recueil dont on parle aujourd'hui, qu'elle vous a aussi confirmé dans un choix vers la jouissance, vers l'érotisme, un érotisme complet de l'existence.
Oui. Et parce qu'elle elle nous ramène à notre corps. Je trouve qu'à chacune des lettres qui sont écrites, Audrey nous ramène à notre corps et elle nous supplie d'être présente, d'être ultra présente et de trouver alléchant, de trouver délicieux tout ce qu'on vit et de le recracher sur la page. Et je trouve ça, c'est comme une mission. En fait, elle nous donne pour mission et c'est comme si on était des Power Rangers, chacune.
Mais vous comprenez ce qu'elle relie à la responsabilité?
Oui, justement, on en parlait avec Laura Nsafou ce matin. Elle a dit, t'as chopé la mission, et je suis comme, ouais, t'as chopé la mission. C'est que chacune d'entre nous, on se rend compte que notre travail, il est vraiment important parce qu'on est obligé de créer une œuvre, de créer des paysages où il n'y a plus de filles qui grandissent en pensant qu'elles ne sont pas libres ou pensant qu'elles n'ont pas leur place. Elles vont pas grandir comme nous. Elles vont faire autre chose. Elles vont aller plus loin. Et je trouve ça c'est aussi genre on continue. On a repris le bâton et on le lègue à autre personne.
On va écouter un morceau tout récent. C'est une collaboration avec un musicien qui s'appelle Lance.
Oui.
Le morceau s'appelle No Good et ça nous permettra d'aller vers l'intérieur du recueil. Mélissa Lavaux. I'm not
Le Book Club, Marie Richeux.
On se tient aujourd'hui sur un pont de questions dans votre Book Club, réunis que nous sommes autour du recueil posthume de la poétesse Audre Lorde. Elle y déploie une pensée de la distance, lui permettant poétiquement d'envisager de nouveaux rapports à nouveaux frais avec ce qui lui fut transmis, merveille et dureté de l'existence. Amitié, amour, corps, lutte, communauté, béton, chimio, cuisine, conversation. On va évoquer avec vous, Mélissa Laveau, et vous, Sandrine Montin, plusieurs poèmes du recueil « Une merveilleuse arithmétique de la distance ». Après avoir parlé à l'instant de ce titre, ces poèmes ont été composés entre 1987 et 1992 et ils existent désormais dans une édition bilingue dans la collection « L'Imaginaire » chez Gallimard. C'est un hors-série. Bah, quoi de mieux que de rentrer directement avec un poème. Mélissa Laveau, vous nous faites le plaisir de nous lire ce qu'elle m'a transmis.
Quand l'amour jaillit de ma bouche, à la cadence de cette sagesse grenadienne avec laquelle j'ai mené ma première guerre sainte, je dois reconsidérer tous les mots de ma mère et chaque sentier qui m'est cher. Comme tout ce que j'ai appris de Linda, ce message s'élance dans l'air comme encore agité, une eau libérée, tumultueuse, silencieuse, déferle d'une gouttière déformée. J'apprends à mourir. De tes nombreux exemples, je déchiffre le code de ton existence, les héroïsmes, les collusions, les invisibilités. Je compose mon propre livre de tes dernières heures. Comment on a tenté de se rapprocher dans cette chambre terne et immaculée d'une femme noire brillante à une autre éduquée à résister, à se battre. Les femmes des îles font de bonnes épouses. Quoi qu'il arrive, elles ont vu pire. Le dernier mot que tu m'as adressé fut « magnifique ». Et je cherche encore la suite de ce terrible acrostiche.
Le titre du poème en français, c'est « Ce qu'elle m'a transmis ». Et en anglais, c'est « Legacy, hers ». Sandrine Montin, j'ai adoré le fait que Mélissa Laveau se jette à toute vitesse dans ce poème-là. Ça vous a paru une évidence d'y aller comme ça, Mélissa?
Non, c'est...
C'est comme ça.
C'est parce qu'on m'a dit que pour la prépa de l'émission, on n'a pas beaucoup de temps pour raconter, pour lire des poèmes. Du coup, tu vas le scander.
Ah, ok, je vais le scander. Beau. En tout cas, ça marche hyper bien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne s'alourdit pas, alors que... C'est quand même pas rien, cette femme qui dit « je vais reconsidérer tout ce que j'ai appris ». Ce qu'elle m'a transmis, elle parle de sa mère, Sandrine Montin. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est un poème qui, on pourrait dire, c'est le cas de le dire, matriciel, en tout cas très important thématiquement pour ce recueil posthume?
Oui, tout à fait. Et puis, il s'inscrit dans une thématique plus générale chez Audre Lorde, qui est sur la transmission. C'est un sujet qui lui importe depuis toujours, à la fois pour considérer les héritages qu'elle a reçus et parfois les détricoter. Et aussi dans l'autre version de la transmission, c'est-à-dire dans l'action qu'elle a eue elle-même de transmettre, à la fois comme enseignante et comme mère. Et,
là, et comme bibliothécaire avant même tout ça.
Et comme bibliothécaire, vous avez parfaitement raison. Et là, le poème donc a une sorte de... Il entre dans un binôme avec le « Ce qu'il m'a légué », qui est le poème qui considère l'héritage du père. Et en ce qui me concerne, ben bravo pour la lecture, j'ai adoré.
Moi aussi.
Je pense que ça le choix que vous avez fait, Mélissa Lavaux, nous parle aussi d'érotisme, parce que ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que tout à l'heure j'ai parlé d'émotions, mais c'est un peu lacunaire en fait. Feelings en anglais, c'est à la fois les émotions et les sensations corporelles. Donc il y a effectivement quelque chose de très charnel chez Audre Lorde, et l'érotisme, c'est aussi ce qu'elle définit comme la puissance de création, la puissance de créativité, un élan de vie qui nous rend capable de créer des poèmes, mais aussi nos vies.
Oui, et d'ailleurs, il y a quelque chose d'agité. Ce message s'élance dans l'air, encore agité, une eau libérée, tumultueuse, silencieuse, déferle d'une gouttière déformée. Il y a vraiment un élan vital hyper puissant, alors que cette femme, on le rappelle, est malade, elle est atteinte du cancer, elle sait qu'elle écrit là ses derniers textes. Même si elle va combattre la maladie pendant plusieurs années, il y a quand même quelque chose de très tumultueux, quoi, de très bouillonnant, en fait, dans ce poème-là.
C'est une urgence, c'est normal, c'est surtout si on est sur le point de mourir. L'urgence, elle est bouillonnante, elle est là. Et moi, je trouve ça, justement, on a tendance à regarder les personnes qui ont des maladies de longue affection et dire, ah, je pensais que t'allais dépérir. Et nous, on est là, genre, tu pensais que j'allais dépérir. Et j'adorais que, j'ai choisi ce texte, justement, parce qu'elle parle du fait qu'elle est antillaise, et je pense que j'ai jamais vu un peuple de femmes qui refuse d'être abattue par quoi que ce soit, qu'importe ce qu'on nous lance. Et
c'est ça, parce qu'elle dit l'amour jaillit de ma bouche à la cadence de cette sagesse grenadienne.
Ouais. Et cette phrase était comme, ok, celui-là, c'est un de mes choix de texte, c'est sûr.
Quand elle parle de sa première guerre sainte et qu'elle doit reconsidérer tous les mots de sa mère, elle dit aussi les héroïsmes, les collusions, les invisibilités, c'est-à-dire qu'elle redialogue avec parfois des moments incompris ou même avec lesquels elle était en désaccord avec sa mère, Sandrine Montin.
Oui, tout à fait. Je suis assez frappée par le mouvement que dessine le poème, parce que effectivement, au départ, il est question de cette guerre sainte, et c'est vrai que Audre Lorde avait pas mal de sujets de colère par rapport à sa famille. On évoquait en introduction le fait que très très jeune, elle a été victime, mais de même que le reste de sa famille, et comme tellement de personnes, de manifestations de racisme. Et alors, elle donne un exemple. Elle en donne plein dans ses écrits, que ce soit les essais, etc. Mais il y a notamment un exemple où elle est dans le métro et où elle s'est assise à côté d'une dame qui regarde son manteau sur lequel peut-être Audrey est en partie assise, et puis elle regarde avec dégoût, horreur, et l'enfante au début ne sait pas ce que signifie ce dégoût. Elle se demande s'il y a là quelque chose de sale sur le siège, s'il y a un cafard. Et en fait, elle comprend que c'est elle-même que la dame regarde d'un œil horrifié. Et bon, voilà, il y a d'autres exemples. Un moment où elle devrait être déléguée, mais ses professeurs et professeuses au lycée l'empêchent d'être déléguée alors qu'elle fait partie des élèves les plus brillantes de sa classe.
Mais le désaccord avec sa mère, Sandrine Montin, c'est que sa mère ne lui donne pas les outils pour faire face à ces manifestations de racisme.
Ça. Exactement.
Mais en ne le voyant pas, en ne le parlant pas,
en lui disant, mais tu es trop orgueilleuse, laisse tomber, etc. Et donc, il y a ce conflit-là sur le silence, sur l'invisibilisation.
Et alors, arrivée à ce moment-là de sa vie, quand elle dit « je dois reconsidérer », c'est-à-dire qu'elle peut regarder autrement le silence de sa mère, vous diriez ça, Mélissa Lavaux, que c'est une façon de comprendre autrement la façon dont sa mère, elle a fait comme elle pouvait peut-être avec les manifestations de racisme.
J'ai eu exactement, je connais cette scène justement, et j'ai eu exactement la même genre de scène à l'église où on avait déménagé à Ottawa de Montréal, de Toronto, et c'était le moment où les gens, ils donnent la paix, ils tendent la main pour donner la paix, et les gens à côté de nous ne voulait pas me donner... J'étais déjà tendu la main, toute contente, parce que c'est mon moment favori à l'église. Et les gens refusaient de me donner la... Ils retenaient leurs mains, et ma mère était en colère contre moi. Elle est comme, comment n'as-tu pas remarqué que ces gens étaient racistes? Et je sais pas, j'ai 6 ans. J'ai pas les codes. Et un peu comme la mère, du coup, moi aussi, j'ai ce recul où c'est genre...
Ben, c'est juste une femme qui essaye de te donner les outils, mais sans te donner les codes. Mmh. Genre, fais comme moi, je fais. Tu vois, tu fais comme si tu tiens la tête haute. On va jamais te, faut jamais être surprise, faut jamais être abaissée en public. Tu vas pleurer en public vraiment devant ces gens qui viennent de te rabaisser. Genre, moi, je l'ai lu comme ça, en fait. Je l'ai lu comme, en fait, avec l'âge, autant qu'on a la colère à l'époque. Mmh. Genre, comment c'est censé savoir? Et dire, OK, en fait, elle voulait pas l'expliquer de suite, elle pouvait pas l'élaborer sur place et elle pouvait pas en parler plus tard parce que c'est tellement horrible que si tu dois vraiment être conscient de ce qui se passe, que c'est horrible, c'est vraiment genre c'est une conscience qui est on préfère encore une fois dissocier, c'est une être conscient de nombreuses violences qu'on appelle micro-agressions mais c'est des macro-agressions de s'en rendre compte tout d'un coup. À la fois, constamment.
Dans l'enfance, par ailleurs.
C'est vraiment dur. Et du coup, ta mère, elle, déjà, c'est affolant de savoir que ses enfants sont constamment en peine, vont constamment être affrontés par rapport à ça. Mais aussi, du coup, c'est pas la colère contre son enfant, mais c'est la colère contre le monde. Et, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais genre, I could relate.
On va écouter la voix d'Audrey Lorde. Elle va commencer à lire un deuxième poème qui va nous occuper, qui s'appelle Today is not the day. C'est toujours un extrait du film et des à côté de ce film Berlin Years de Dagmar Schultz. Et juste après, vous allez prendre le relais, Mélissa Lavo, pour la version française.
Today is not the day. I can't just sit here staring death in her face, blinking and asking for a new name with which to greet her. I am not afraid to say, unembellished, I am dying. But I do not want to do it while looking the other way.
Aujourd'hui n'est pas le jour où. Ce n'est pas. Aujourd'hui n'est pas le jour où ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, au petit matin, remuant, le soleil brille sur la ferme de mon ventre, éclaire les ruelles bien entretenues de la ville qui s'étend dans mon foie, complexe réseau du vaisseau gonflé de l'offrande de Mère Waou ou de sa fille malicieuse, Afrikete. Afrikete, ma bien-aimée, sent comme le soleil de mes jours t'entoure et relie nos chemins. Nous avons de l'eau à porter, du miel à récolter, des graines colorées à planter pour le prochain marché. Nous prendrons notre temps. On s'en mettra l'une l'autre, de l'huile douce sur nos jambes sèches, la lumière du soir, une saillie sur tes pommettes. Dans cet élan, une partie de notre besogne est déjà pour moitié accomplie. Le goût d'aimer, travailler un peu, prendre du bon temps, pousser mes joues, tous pousser mes roues si près de la ligne que mes cils s'embrasent. Beth accroche son stéthoscope au rétroviseur. Jonathan ajuste son cap sur Orion, absorbé par une autre équation, jeunesse tendue comme une flèche déployée jusqu'à ses limites. La pointe s'enfonce si profond qu'elle disparaît de la surface. Je n'ose pas trembler pour elle. Je prie seulement que le rire vienne assez souvent adoucir les contours. Et Gloria, Gloria, dont j'apprends la différence avec l'amour d'une sœur, toi. Toi, dans l'appétit brillant de mes yeux, la lumière court le long de ton muscle quand tu te balances. Ça pourrait être le jour où je pourrais jeter l'ancre et divaguer jusqu'au bout de la jetée. Lâcher sur les eaux un vaisseau de lumière, reflet de lune, chevaucher les flots jusqu'à la tombée du jour. Et lorsque je serai partie, une nouvelle inconnue te retrouvera, recroquevillée sur le sable chaud, trésor échoué, et t'aimera pour toutes les histoires qui racontent les océans, tes océans. Et les fleurs à moitié écloses qui poussent hors de ma maison, hors de ma saison, suivront derrière dans un fredonnement réconfortant. Mais aujourd'hui n'est pas le jour où. Aujourd'hui, 22 avril 1992.
«
c'est le deuxième poème que vous nous lisez, Mélissa Laveau, dans cette traduction collective Providence Garçon et Noémie Grunewald pour les éditions Gallimard et la collection L'Imaginaire. Vous souhaitiez aussi entendre Sandrine Montin, ce poème-là, pour évoquer son rapport au temps qui presse, à l'urgence, à la mort, à la maladie. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte « Aujourd'hui n'est pas le jour où » ?
Bien, je dirais que c'est vraiment un poème qui est scandé par un double mouvement. Il y a comme une incantation qui revient sous forme de ce refrain avec variation. Aujourd'hui n'est pas le jour où. Ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. Et cette incantation, cette scansion, c'est à la fois le rappel imminent de la mort et l'affirmation que la vie est à vivre. Et c'est vraiment très beau, comme à la fois Lord envisage le temps où elle ne sera plus là, où ses enfants, Elizabeth et Jonathan, poursuivront leur route dans des images qui sont magnifiques, où Gloria, sa dernière compagne, Gloria Joseph, aimera à nouveau. Elle dit « Une nouvelle inconnue te retrouvera, recroquevillée sur le sable chaud, trésor échoué, et t'aimera ». Et pour dire ce temps où elle ne sera plus, le travail des métaphores, des comparaisons est vraiment somptueux. Y a ce que vous avez lu, Mélissa, et puis ça fait écho pour moi avec d'autres poèmes où elle va dire, par exemple, dans « Sans voix »,« La mort s'installe sur ma langue comme une pierre ». Ou bien dans « Jasmin de nuit »,« La mort est une frontière morcelée qui pénètre le cœur de mes jours ».
Et en même temps, elle termine ce poème en disant « aujourd'hui », comme si « aujourd'hui », ce mot-là était presque une injonction
à vivre.
On a des choses à faire, on a de l'eau à porter, du miel à récolter, des graines colorées à planter pour le prochain marché, nous prendrons notre temps, on se mettra l'une l'autre de l'huile douce sous nos jambes sèches, la lumière du soir, une saillie sur tes pommettes. Il y a quelque chose, qui, comme vous disiez tout à l'heure, Mélissa Laveau, qui est à la fois l'urgence, mais presque aussi le ralentissement, à la moindre seconde, au moindre geste, au moindre soin aujourd'hui.
On veut ressentir chaque instant et on aimerait le ralentir, c'est sûr.
On va écouter la voix de Céline, auditrice du Book Club. Je me demande si elle n'a pas découvert la prose ou la poésie d'Audrey Lorde avec ce recueil. Elle vous interroge sur le travail justement de fémage. Donc c'est la féminisation de hommage à ces voix de poésie.
Bonjour le Book Club, bonjour Mélissa Laveau et Sandrine Montin. Alors en fait, moi j'ai découvert Audrey Lorde assez récemment avec le recueil Une merveilleuse arithmétique de la distance. Et ce que j'ai trouvé beau, en plus du livre qui est magnifique, c'est vraiment déjà les fémages au début des différentes autrices, c'est très bouleversant. Et je voulais savoir comment on peut continuer à rendre ainsi fémage, à mettre en avant des autrices et des poétesses comme Audrey Lorde aujourd'hui. Merci.
Merci à vous, Céline, pour cette lecture et pour cette question. Mélissa Laveau, vous disiez, voilà, moi, ça fait longtemps, en fait, que j'ai découvert l'œuvre d'Audrey Lorde. Et pour certaines, c'est une découverte. Pour d'autres, c'est une confirmation. Pour d'autres, c'est un caillou comme ça sur un chemin. Manifestement, Céline, elle découvre cette œuvre-là et elle demande comment continuer à donner de la force à ses voix, à rendre hommage ou fémage, puisque c'est le mot qu'elle utilise. Est-ce que pour vous, c'est aussi un travail important?
C'est un travail super important et j'adore que, justement, ce travail se refait de retraduire certaines œuvres qui ont été mal traduites dans les dernières 5 années avec différentes éditions et dont les prouesses par exemple qui se rajoutent à des éditions qui traduisent Audrey Lorde et en France. Mais pour moi c'est un peu la mission, c'est de continuer cette l'existence de nos voix, en fait, et que l'idée étant que personne d'autre ne peut raconter nos histoires. Et que la raison pourquoi c'est important de raconter nos histoires, c'est pour voir qu'en fait, ce ne sont pas des histoires isolées. Et qu'elles font partie d'une lignée, en fait. Et c'est continuer c'est vraiment important et c'est urgent de continuer à retracer le fil et de continuer ce fil et ne pas faire genre, ben nous, on est les nouvelles féministes et on fait comme si. Et c'est genre, oui, mais il y avait les féministes de hier qui faisaient ça et les féministes d'avant ça qui faisaient ceci. Et il faut aussi les honorer et aussi voir comment ça a changé et comment est-ce que ça, on est la réflexion de leur travail. vis-à-vis du monde qui nous occupe.
Quand tout à l'heure vous disiez que vous étiez animée par un sentiment de responsabilité, lui-même nourri de l'érotisme, de l'existence dont parle Audre Lorde, et que cette responsabilité, elle se tournait sur votre travail de création, vous diriez que la responsabilité, elle est égale, sinon supérieure, quand il s'agit de la transmission. Ce seraient les deux cordes importantes à votre arc, Mélissa Lavo?
Absolument, les deux cordes importantes à mon arc, parce que la plupart de mes héroïnes, dans mon carquois d'héroïne artiste, en général, elles meurent sans être connues. Elles meurent dans des tombes non marquées, d'une maladie, sans leurs... Donc pour moi, Zora Neale Hurston, c'est une des... qui a été la moins connue. Et en fait, grâce à Alice Walker, grâce à Audre Lorde, grâce à Toni Morrison, ces femmes-là ont vraiment fait un effort de remettre le travail de Zora Neale Hurston dans les archives nationales des États-Unis. Et j'espère qu'elles vont pas partir de sitôt. Donc moi, je sais que justement...
C'est un geste combiné, d'une certaine manière.
C'est un geste combiné, mais c'est aussi... Faut se rendre compte que les gens, ils cherchent justement à nous effacer. Et il y a vraiment un effort spécifique, pernicieux, à effacer les voix de certaines personnes. Et c'est pas un hasard qu'elles se retrouvent, toutes ces héroïnes, à mourir sans être connues, vraiment.
Le Book Club continue.
France Culture. Le Book Club. Marie Richeux.
Et il continue avec vous, Nicole Vulzar. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
On vous retrouve toutes les semaines pour évoquer des aspects économiques du monde des livres. Aujourd'hui, vous nous parlez de la Maison des écrivains de la littérature qui risquerait de fermer.
Oui, il y a de quoi y perdre son latin. Hier, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Rachida Dati, ministre de la Culture, ont donné le coup d'envoi à l'opération « Cet été, je lis », dont l'objectif consiste à encourager la lecture chez les jeunes. Parce que toutes deux répètent à l'envi que pendant leurs loisirs, les jeunes passent 10 fois plus de temps devant un écran que devant un livre, en précisant même qu'à la dernière rentrée scolaire, seuls 55% des élèves de CM2 maîtrisaient la compréhension d'un texte lu. Autant dire qu'il est urgent d'agir. Et pourtant, de façon paradoxale, ces deux ministres laissent la Maison des écrivains et de la littérature, la MEL, le premier employeur d'écrivains en France en matière d'éducation artistique et culturelle, courir à la faillite. Créée en 1986, la MEL, une association de loi de 1901, est plus que jamais menacée de fermeture en raison de coupes budgétaires. Cette association, administrée par des écrivains, permet chaque année à quelques 30 000 élèves de rencontrer près de 300 écrivains qui viennent parler de leur travail dans les classes de primaire ou du secondaire de la France entière. Leur donner donc très concrètement le goût de la lecture et de l'écriture. La MEL organise aussi des rencontres dans les universités en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Pologne et parfois aux États-Unis.
Et puisqu'on parle concrètement, Nicole, quelles sont les manifestations qu'organise la MEL ?
Jusqu'en 2024, Marie, cette association organisait bon nombre de festivals et de manifestations littéraires, comme le festival Littérature Enjeux Contemporains au Théâtre du Vieux Colombier à Paris, ou encore le festival de littérature et de l'illustration jeunesse de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Des élèves des deux bords de l'estuaire de la Loire étaient aussi directement concernés par le projet Le Livre fait le pont. Dans de toutes petites communes comme Paimboeuf, qui ne compte que 3000 habitants, Saint-Père-en-Ré, mais aussi Pornic ou Saint-Nazaire et La Baule. La MEL invitait des écrivains connus dans des classes et organisait en parallèle des rencontres publiques avec les parents et les enfants en dehors du cercle scolaire. Autant dire que cette association joue un rôle clé dans la médiation entre auteurs, enseignants et élèves. Et c'est aussi un centre de ressources et de documentation important pour les auteurs qui trouvent un répertoire complet de toutes les bourses et des résidences d'écrivains.
Et alors pourquoi est-ce que la Maison des écrivains et de la littérature, comme bien d'autres associations, rencontre des difficultés financières en ce moment, Nicole ?
La MEL a vu ses subsides fondre au fil des années. Les subventions du ministère de la Culture, via la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, sont passées de 500 000 euros en 2023 à 350 000 euros en 2024, puis 200 000 euros en 2025. Sa directrice, Sylvie Goutte-Baron, a dû faire le forcing en février au ministère pour savoir quel serait son budget pour l'année en cours. On lui a signifié que les subventions baisseraient de 60% par rapport à 2023. Elle a dû alors renoncer à de multiples actions. Le loyer de l'ancien hôtel particulier des frères Goncourt, 67 boulevard de Montmorency dans le 16e arrondissement de Paris, où est installée l'association, n'est plus payé. Les salaires ne pourront plus être assurés à partir partir de juin. Priver la MEL de moyens financiers, c'est aussi amputer les écrivains des rémunérations qu'ils reçoivent en allant dans les écoles. La MEL leur doit d'ailleurs 70 000 euros. Sylvie Goude-Baron a tout tenté et même envoyé aux 35 000 maires des communes de France une demande d'aide pour que chacune lui apporte 40 euros de soutien par an, mais cela n'a pas suffi. Une pétition d'écrivains circule en demandant un financement stable pour que la MEL puisse remplir ses missions d'intérêt général et pour éviter que 40 ans de travail ne soient anéantis. Pour les signataires, je cite, « Faire des économies sur la lecture et l'éducation est un choix désastreux. »
Et puisque vous citiez Rachida Dati en début de chronique, quelle est la position du ministère de la Culture ?
En fait, le danger de fermeture de la MEL est tout à fait réel. Le tribunal des activités économiques de Paris, c'est le nouveau nom du tribunal de commerce, a appelé le président de la MEL pour le convoquer cette semaine et sans doute envisager une procédure de redressement judiciaire ou directement une liquidation. Alors que le ministère de la Culture est au courant, sa porte-parole se borne à affirmer que, je cite, « Depuis des années, l'État a invité la MEL à se rapprocher des acteurs territoriaux qui sont désormais en charge des activités d'éducation artistique et culturelle. » Point. En oubliant que les activités de la MEL ne sont pas circonscrites à l'Île-de-France. Manifestement, l'incompréhension est totale. Sylvie Goude-Baron a reçu la semaine dernière une écoute plus attentive de la part du ministère de l'Éducation, mais rien ne dit que cela permettra à la MEL d'éviter de disparaître.
Ce serait pourtant une façon de mettre en accord les paroles et les actes, Nicole Velzer. Et le grand projet national autour de la lecture. Économie du livre à réécouter sur franceculture.fr. À la semaine prochaine. L'heure est venue de jouer au grand jeu des pages musicales. On a cherché la musique et le son dans ce recueil Une merveilleuse arithmétique de la distance d'Audrey Lorde. Ces poèmes composés entre 1987 et 92. Il y a un très beau poème qui s'appelle Echoes. Je vais lire la version française pour terminer. Il existe un timbre de voix qui vient du fait de ne pas être entendu et de savoir que nous ne sommes pas entendus. Et les seuls à le remarquer sont celles qui ne sont pas entendues pour la même raison. Saveur, fruit de minuit, la langue réclame ton corps dans la lumière obscure, transperce l'attrait de la sécurité, déchire l'éclat du silence qui t'enveloppe. Éblouis-moi de couleurs, et je ne remarquerai peut-être qu'après ton départ, ton odeur chaude et granuleuse tatouée au cœur de chaque nouveau poème, qui résonne par-delà l'esquive, j'écoute, dans cet espace infime, entre désir et toujours, le calme grave qui précède le choix. Alors que ma langue déchiffre dans quelle tonalité restera suspendu le cri étouffé, ou frissonne comme la dentelle aux confins du jamais, et prend note de quel rêve guérisse, de quel rêve peut tuer, poignarder un homme et brûler son corps pour se couvrir, être prise, en train de faire l'amour à une femme, je ne sais pas.
I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday.
Nous avons parlé aujourd'hui de Une merveilleuse arithmétique de la distance, poème 1987-1992 d'Audrey Lorde, paru aux éditions Gallimard. Travail collectif de traduction à quatre mains par Providence Garçon et Noémie Grunewald. Il y a aussi les préfaces lumineuses d'Alice Diop, Fatou S, Kiemis et vous, Mélissa Lavaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour évoquer ce recueil et la figure d'Audrey Lorde. Merci beaucoup Sandrine Montin d'avoir été avec nous.
Merci
depuis Nice, ici Azur, qui permettait l'émission, le son, hein. C'était Jean-François Le Duplex, merci beaucoup. C'était Jean-François Salé et Mathis Gérard. Ici, au son, à Paris, c'était Jordan Fuentes. Et puis, la personne qui me parle très gentiment à l'oreille et qui réalise l'émission, c'est Vivian Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club.